administrer une benzodiazépine, une forte dose.
Son ventre se noie. Il sentit que cette affaire prenait un nouveau tournant. Comment avait-il su que ce serait le cas? Spécifiquement, demanda Parrish.
Flunitrazepam, rohypnol, d'accord? Je crois qu'on appelle ça des roofies de nos jours.
Combien?
Eh bien, si l'on considère que l'usage récréatif se situe entre 1,8 et 2,7 mg, elle a reçu au moins 5 ou 6 fois cette dose d'après mes observations. C'est une substance qui métabolise très vite. C'est pourquoi elle n'est apparue ni dans l'urine, ni dans le sang.
Mais les cheveux?
On peut en trouver la trace dans les cheveux pendant environ un mois. Ça dépend de la dose absorbée, mais environ un mois normalement.
Autre chose?
Non, juste les roofies. Vous voulez que je vous fasse parvenir le rapport à votre bureau?
Oui, s'il vous plaît, dès que possible.
Pas de problème.
Parrish raccrocha. Karen, Jennifer et Nicole étaient mortes depuis trop longtemps pour que de nouveaux tests toxicologiques soient effectués. Leur sang et leur urine avaient été analysés comme le voulait la procédure standard, mais les cheveux n'étaient prélevés que sur requête. S'il n'en avait pas fait la demande pour Rebecca, personne n'aurait rien su. Mais ces résultats changeaient la donne. Elle avait été droguée, lourdement. Y avait probablement été violée pendant qu'elle était dans les vapes. Elle aurait été incapable d'opposer la moindre résistance. Elle n'aurait pas eu la force de se battre. En fait, elle ne se serait même pas rendue compte de ce qui se passait, et si elle avait survécu, elle ne se serait souvenue de rien. Son frère? Quelqu'un à qui son frère l'avait vendu? Et s'agissait-il d'un simple film porno? D'un snuff movie? Baiser une adolescente pendant qu'elle mourait d'une overdose de benzodiazépine, ou peut-être même alors qu'elle était déjà morte? Coller ça sur un DVD et vendre assez de copies pour se payer une cure de désintox? Était-ce ça le plan de Danny Lange? Parrish alluma son ordinateur et chercha le numéro de téléphone du 91e district à Williamsburg. Il se présenta à Richard Franco, lui expliqua brièvement sur quoi il travaillait et l'interrogea sur Karen.
« Tout standard, »
répondit Franco.
« Bien sûr que nous avons effectué des tests, mais je ne me souviens de rien d'inhabituel à son sujet. Rien qui m'aurait poussé à demander autre chose que des analyses de sang et d'urine. Vous avez un cas similaire ?»«
Possible. Une autre fille adoptée morte la semaine dernière. »«
Bon sang, je ne sais pas quoi dire. Ça fait quasiment un an. Je ne me souviens pas de grand-chose. Vous voulez que je retrouve le dossier et que je vous l'envoie ?»«
Je l'ai déjà vu. Je suis passé il y a 2 jours et je l'ai consulté. »
Eh bien, c'est tout ce qu'il y a, j'en ai bien peur. Je peux vous être utile à autre chose?
Je ne crois pas. Pas pour le moment. Je vous rappellerai si quelque chose me revient. Parrish remercia Franco et raccrocha. Il se rassit et songea à la conversation qu'il venait d'avoir. C'était triste quand la mort d'une jeune fille donnait lieu à des commentaires tels que « Je ne me souviens de rien d'inhabituel à son sujet. » Rien. À part le fait qu'elle avait 16 ans, et avait été retrouvée morte dans une benne à ordures. Radic apparut. « Je me tire d'ici, » annonça-t-il. « Je vous dépose ?»« D'accord, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais faire un saut chez ma fille en route si possible. »« Bien sûr, si vous n'en avez pas pour trop longtemps. »
Chapitre 27.
Peu après 18h, il se trouvait de l'autre côté de Flatbush. Radic gara la voiture dans Smith Street, près de Carroll Park. « Vous n'êtes pas forcé de m'accompagner, » dit Parrish. « C'est bon, ça ne me dérange pas. » Radic descendit de voiture, attendit que Parrish lui montre le chemin. Caitlin Parrish partageait un appartement avec 2 autres infirmières en formation, mais Parrish la trouva seule. « Bon Dieu, papa, tu devrais appeler avant de passer. Je suis sur le point de partir. » « Salut ma chérie, » dit Parrish, « ça me fait plaisir de te voir. Comment vas-tu? Moi ça va, et toi? Je vais bien, merci, entre, je t'en prie, tu veux un café? Ôte ton manteau. » « Ok, ok, » fit-elle, « épargne-moi tes sarcasmes. » Radic apparut derrière Parrish. « Oh, je te présente Jimmy Radic, c'est mon nouvel équipier. » Caitlin, brune, 1m65, mince, intelligente, aussi affûtée qu'une lame de rasoir, échangea une poignée de main avec Jimmy Radic. « Ravi de vous rencontrer, » dit-elle. « À cause de vos péchés, hein ?» Radic fronça les sourcils. « Ils vous ont collé mon père comme équipier à cause de vos péchés. » « C'est ce qu'on dirait. » « Alors entrez tous les deux, mais je suis réellement pressé. Comme je l'ai dit, j'étais sur le point de partir. Si vous voulez du café, vous allez devoir le faire vous-même. » Elle fila dans le couloir et disparut dans une pièce sur la droite. « Où vas-tu ? » lança Parrish à sa suite. Il pénétra dans le couloir de l'appartement, fit signe à Radic d'entrer referma la porte derrière lui. Je dois trouver mon Mac, et ensuite je dois me taper trois mecs différents. Et après, je me suis dit que j'allais peut-être m'acheter des amphés et passer la soirée à me défoncer et à raconter des conneries avec des noirs. Kathleen. Elle apparut dans le couloir, son chemisier enfilé à la va-vite, ses pieds nus, ses cheveux grossièrement épinglés en arrière. Papa, sérieusement, il faut que tu arrêtes de me demander ça et surtout, il faut que tu arrêtes de t'inquiéter à mon sujet. D'habitude, répondit Parrish. Eh bien, change d'habitude, pour l'amour de Dieu. Dans un an, je serai à Manhattan ou alors à Londres. À Londres? Je plaisante, papa. Relax. Elle disparut de nouveau dans sa chambre. Café? Demanda Parrish. D'accord, répondit Radic. Parrish s'affaira dans la cuisine. Radic marcha jusqu'à ce qui devait être la salle commune de l'appartement. Une télé, une chaîne stéréo, deux bibliothèques, Peanuts, les Dominockers de Stephen King, Introduction à la médecine de diagnostic, des DVD de Scrubs, Grey's Anatomy, 24 heures, une diversité prévisible et en même temps appropriée. Kathleen pénétra dans la pièce. Elle s'approcha à la hâte de Radic. Elle avait une expression quelque peu embarrassée. Depuis quand êtes-vous avec mon père? Hier, répondit-il. Il boit, vous le savez, n'est-ce pas? Radic ne répondit rien. Il boit et ça le rend morose. Il y a une longue histoire entre lui et ma mère, et il ne la gère pas très bien. Mademoiselle Parrish, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de me dire. Elle lui enfonça un bout de papier dans la main. Voici mes numéros de téléphone au travail et mon portable. Appelez-moi s'il se met à déconner, d'accord? Appelez-moi si vous commencez à vous inquiéter pour lui. Mademoiselle Parrish, sérieusement, appelez-moi. Café, annonça Parrish, et Kathleen se retourna soudain. Elle sourit lorsqu'il pénétra dans la pièce. Je croyais que tu te préparais, observa Parrish. C'est ce que je fais. Je suis juste venu chercher une barrette, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. Kathleen passa devant son père et quitta la pièce. Parrish tendit à Radic une tasse de café, et lui dit de s'asseoir. Radic enfonça le bout de papier dans sa poche de veste et s'installa sur une chaise près de la fenêtre. Parrish posa son café sur la table, lui demanda de l'attendre un moment. Bientôt, des voix s'élevèrent à l'autre bout de l'appartement. C'était le genre de discussion entre un père et sa fille à laquelle Radic ne voulait pas être mêlé. Il but son café, attendit patiemment, tentant de ne pas écouter, ce qui était difficile. Frank la tannait à propos de son boulot, de l'endroit où elle travaillerait. De toute évidence, il voulait qu'elle soit à un endroit et elle voulait aller ailleurs. Ça semblait le genre de discussion qui ne pouvait mener qu'à un désaccord, une engueulade, une pomme de discorde. Radic avait l'impression qu'elle était plus que capable de prendre ses propres décisions, de choisir où elle voulait vivre.